Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être quand même venus en cette veille de vacances jouer avec l'eau et le feu en ma compagnie. Alors, nous allons poursuivre, si vous voulez bien. Donc, pour me résumer, nous avons examiné la dernière fois la tentative comparatiste de Dumézil de reconstruire un mythe indo-européen commun faisant intervenir un feu qui se trouverait dans l'eau. Or, on peut résumer, comme je vous le disais pour terminer, la reconstruction de Dumézil en mentionnant quatre éléments, quatre articulations du mythe. Il y a un feu dans l'eau que l'on cherche à conquérir. C'est le premier point. Deuxième point, ce feu dans l'eau a un gardien. Apam Napat dans le domaine indo-iranien, Nectan en Irlande, Neptune pour les Latins. Troisième point, ce gardien veille à ce que le conquérant de cet élément igné de l'eau soit qualifié et non qualifié. Enfin, quatrième point, si le conquérant n'est pas qualifié, les eaux le punissent en débordant. Bien, alors avant d'aller plus loin et de vérifier le mythe, je pourrais, pour simplement être complet, vous signaler qu'il y a eu deux tentatives intéressantes de resituer ce mythe dans la tradition grecque. La première en 73, dans le Journal of Indo-European Studies, par Scott Littleton, et la seconde par Mme Françoise Bader, que nous connaissons bien, dans la revue General Linguistics de 2004. Mais je n'en dirai pas un mot, parce qu'il n'y a pas d'éléments qui puissent nous être utiles pour notre étude du dieu Apam Napat. Je préfère avancer. Alors, le mythe iranien qu'utilise Dumézil, il faut bien maintenant que nous l'abordions avec un peu plus de précision. Ça va m'obliger, vous m'en excuserez, à être très narratif, vous raconter des petites histoires, quoi. Or, les choses se présentent de la manière suivante. Le texte témoin, c'est le Yasht 19, qui est le Yasht de ce curieux fluide que l'on appelle le Kwarna, et qui est une sorte de chose précieuse, probablement lumineuse, mais précieuse, et qui appartient aux pays iraniens. Il y a au cœur, vraiment au cœur du Yasht 19, qui est un hymne assez long, 90 strophes environ, eh bien, on nous raconte d'abord à partir de la strophe 30, après avoir situé le Kwarna vis-à-vis des dieux, on passe aux hommes, et le premier récit, c'est le Kwarna défini comme Kavaya. Kavaya, c'est-à-dire qui appartient aux Kavi. En principe, les Kavi sont des poètes, mais vous savez que dans la tradition iranologique, l'idée majoritaire est de faire des Kavi un roi, des rois. Dans le premier épisode, le terme Kavaya appliqué au Kwarna est abusif, car les personnages qui sont officiellement désignés comme Kavi ne sont pas encore entrés en jeu. Et c'est au contraire un Kwarna qui appartient aux premiers hommes, et tout spécialement au premier d'entre eux, qui est Yima, le Yama indien, le jumeau. Et ce texte continue jusqu'à la strophe 44. Ça, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode se subdivise. Il y a d'abord les deux subdivisions ont été utilisées par Dumézil, disons la subdivision A, c'est le Kwarna dit Akwarta. Traditionnellement aussi, ce terme est traduit par insaisissable. Mais nous ferons de petites nuances, mais je vous prie d'attendre, nous n'en sommes pas encore là. Or, ce Kwarna insaisissable fait l'objet d'une rivalité entre le bon et le mauvais Maniou. Donc Spenta Mainyu et Angra Mainyu se disputent ce Kwarna. Deuxième épisode, deuxième subdivision, utilisée elle aussi par Dumézil, C'est la tentative d'un certain Frank Gracian, l'ennemi des Iraniens, un ennemi inusable. Il sera l'ennemi des neuf Cavis. Il ne sera éliminé que par le huitième. Et il leur préexiste, d'ailleurs. Il entre en scène avant les Cavis. Frank Gracian, donc l'épisode où Frank Gracian ne peut pas s'emparer du Kwarna, lui non plus, puisqu'il est insaisissable. Enfin, troisième épisode, on revient au Kavaya Kwarna, employé au sens propre cette fois-ci, parce qu'il s'agit du Kavi qui se donne ici aux neuf personnages qui portent officiellement et explicitement le titre de Kavi et à leur compagnon Zarathoustra. Donc l'épisode ici commence avec la strophe 65. Vous voyez donc la couche 2 utilisée par Dumézil va de la strophe 44 à la strophe 64, 65 et dure jusqu'à la fin de l'hymne. Voilà l'ossature du mythe. Alors, il faut bien donc raconter les événements qui se jouent dans cette couche. Yima, à la suite d'une faute, le premier homme, Yima, commet une faute. On ne sait pas très bien laquelle, mais cela doit consister. Il semble avoir menti, avoir dit une parole fausse, une parole menteuse. Et il va perdre le Kwarna. Il n'est pas clair pour nous, parce que les termes sont ambigus, s'il perd le Kwarna trois fois, de manière successive, après avoir commis trois fautes, ou si, au contraire, il perd le Kwarna par tiers. Hein, il perd le tiers de son Kwarna, puis le deuxième tiers, puis le troisième. Ce Kwarna de Yima s'enfuit sous la forme d'un oiseau, l'oiseau Varkna. L'oiseau Varkna que l'on a pu identifier, on a pu identifier avec précision. Il s'agit d'un rapace, très exactement l'autour. On l'a identifié avec bonheur, c'est une histoire intéressante, ça ne nous arrive pas tous les jours, parce que l'on décrit la manière dont cet oiseau, ce rapace, saisit sa proie. Or, il a une manière très particulière. En réalité, il vole sous sa proie, puis se retourne et la grippe par le bas. Il ne lui fond pas dessus, il l'attaque par le bas. Bon, donc ça, c'est caractéristique de la prise de l'autour. Et c'est un oiseau utilisé dans tout le Proche-Orient, aujourd'hui encore, pour la fauconnerie. Donc, il est possible qu'il y ait dans ce yima qui s'enfuit de yima sous la forme d'un autour, qu'il y ait là une image de fauconnerie, le faucon qui ne revient pas, vers son propriétaire. C'est peut-être l'image sous-jacente à cet épisode, mais toujours est-il que la première fois ou le premier tiers, maintenant l'alternative, ce Kwarna est récupéré par le dieu Mitra. Le deuxième Kwarna, ou le deuxième tiers, est récupéré par un autre héros des origines, qui est Traitaona. Traitaona. Et la troisième fois, par un autre héros des origines, Kursaspa. Ce nom-là, lui, est tout à fait clair, c'est l'homme qui a des chevaux maigres. Ça s'arrête là, n'est-ce pas, la récupération des trois Kwarnas de Yima. Maintenant, nous en venons au deuxième épisode dans ces deux subdivisions. Le Kwarna Akwarta, celui qui ne sera saisi par personne. Personne n'arrivera à le saisir, sauf à la fin de l'épisode que nous allons voir. Donc les deux esprits, le bon et le mauvais, se donnent des champions. Ils ne vont pas s'affronter directement. Ils auront une équipe à leur service. Dans la réalité de la narration, une seule de ces équipes entre en ligne de compte. On ne nous raconte pas la lutte entre les autres champions. Les champions du bon esprit, prenons-en bonne note, c'est le Asha, donc la principale entité, l'ordre du monde, la bonne pensée, Vohumana, et le feu. Le mauvais esprit désigne quatre champions, ce qui est assez curieux, parce que c'est 4 contre 3, c'est quelque chose qui semble ne pas coller. Mais le seul qui va intervenir dans l'affrontement, c'est un nagi, c'est-à-dire un serpent ou un dragon. Il est bien connu, c'est un personnage de la tradition religieuse et épique iranienne, nagi d'Araka, ce qui doit signifier le dragon impie. Et il sera, ce dragon sera l'adversaire du feu, l'adversaire d'Attar. Le match sera nul, comme je vous le disais au début, parce que Dumézil le raconte d'ailleurs. Mais il sera nul pour une raison extrêmement intéressante, c'est que, semble-t-il, Attar est paralysé par son adversaire suite à la menace de le faire tomber à l'eau, faire tomber le feu à l'eau. C'est la menace que Agid Aaka profère. Agid Aaka, malgré cela, ne saura pas lui non plus en, conquérir le Kwarna par la menace contraire. Attar menace de le brûler, lui brûler les fesses, lui dit-il, et de lui brûler la gueule. Bon, menace donc de le brûler et le Kwarna n'est pas conquis. La tentative de Frankrassian, elle aussi est racontée par Dumézil. À 3 reprises, Frankrassian se dévait. Cela a peut-être son importance, parce que le texte, c'est un détail, il se met nu. Il plonge dans l'eau de la mer Vorukasha, le réservoir céleste des eaux, mais sans rencontrer un seul adversaire, pour des raisons que nous ne connaissons pas, il ne peut pas saisir le Kwarna, semble-t-il, parce que le Kwarna se dérobe. En quelque sorte, le Kwarna, ici, se défend lui-même, se défend lui-même par ses déplacements dans l'eau de la mer de l'océan céleste. Et finalement, après la 3e tentative, quelqu'un va réussir à s'emparer de ce qui est insaisissable, c'est Apamnapat, Apamnapat, qui réside dans la mer céleste. Vous voyez qu'il y a évidemment un lien entre les deux couches. Si Apamnapat parvient à saisir le Kwarna, c'est évidemment parce qu'il combine les deux éléments inconciliables que sont l'eau et le feu. Il est le feu dans l'eau. La menace de le faire tomber à l'eau ne peut pas l'effrayer, ne peut pas le retenir, et la menace de le brûler est également anéantie par sa propre personnalité. La tentative malheureuse de Frankrassian a tout de même une conséquence. C'est que lors de chaque essai, 20 pour s'emparer du Kwarna, un nouveau déversoir se crée dans l'océan céleste. Un apakjara, c'est un déversoir, et on peut comprendre naturellement que chacun de ces, ces déversoirs vont alimenter les eaux terrestres. Et effectivement, à partir de la strophe 65, lorsqu'il sera question du Kwarna des Kavi, qui va se donner aux Kavi, le Kwarna coule dans un bassin fluvial qui est celui du fleuve Haitoumant, littéralement le fleuve endigué, qui est aujourd'hui le fleuve Hilmant, donc dans le Sistan. Et le fleuve se jette dans un lac qui, en avestique, le lac Kansaouya, et qui est aujourd'hui le lac Hamoun. Et c'est dans ce complexe hydrographique que le Kwarna des Iraniens, le Kwarna des Kavi, se situe. Alors, ici, il faut ajouter, Dumézil ne l'a pas utilisé, que ce Kwarna des eaux terrestres, ici, du bassin du fleuve Hamoun, fera aussi l'objet d'une tentative vaine de Frankrassian, de conquête par Frankrassian. Frankrassian va pourchasser le Kwarna, nous dit le texte, sur toute, c'est la strophe 82, sur toute la surface de la terre, semble-t-il à cheval cette fois-ci. Il le poursuivra sur toute la surface de la terre. Mais ici aussi, le Kwarna va se dérober, d'une manière que nous ne comprenons pas bien, mais je vais y revenir. Alors, la première des questions qui peut se poser à nous, après avoir raconté brièvement à quoi consiste le mythe, c'est de savoir s'il y a une chronologie dans ces histoires. si ce sont des faits qui se produisent successivement. Y a-t-il une chronologie ou au contraire, faut-il considérer qu'un quarna cavaya et un quarna aquarta sont des choses distinctes, indépendantes, donc dont l'histoire ne suppose pas, par conséquent, une chronologie. Bon, il y a un argument pour retenir l'hypothèse chronologique, c'est évidemment la personne de Frank Gracian, hein, le vieil ennemi traditionnel des Iraniens, n'est-ce pas, qui apparaît, qui fait son apparition, ben, au moment où on l'attend, entre la disparition de Kursaspa et l'apparition des personnages appelés Kavi, qui est d'ailleurs un moment sur lequel l'Avesta est extrêmement discret. Il est assez curieux que l'Avesta ne nous parle pas beaucoup de ces personnages interstitiels entre les héros des origines et les Kavi, parce qu'ils ont leur importance. Ils ont une importance même très grande, car c'est le moment où la différenciation ethnique est censée se produire. Les descendants de Traitaona vont donner naissance aux différentes ethnies terrestres et l'une d'entre elles sera bien sûr l'ethnie iranienne. Or, curieusement, l'Avesta est extrêmement discret sur cette période. Il ne sait à peu près rien sur l'origine de la différenciation ethnique. Ou bien on nous parle des héros des origines qui sont des héros universels, qui n'ont pas de caractéristiques ethniques. Ou bien alors nous avons les personnages appelés Kavi, mais au moment des Kavi, la différenciation est accomplie. Les Kavi sont les représentants, les champions, les héros des nations iraniennes. Ce qui s'est produit dans l'intervalle, l'Avesta ne nous le dira pas. Alors, Ajida Aka, au contraire, lui, plaide plutôt pour de l'absence de chronologie, car en principe, au moment où il rivalise avec le feu pour s'emparer du Kwarna, il devrait être mort, puisque Traitaona l'a tué. Donc il y a là quelque chose qui ne colle pas bien. Je crois que ce qu'il y a de mieux à faire, certainement, c'est considérer qu'il y a un peu de chronologie, en gros, hein, mais aussi un peu de spécificité des différents Kwarna. Hein. Le Kwarna Aquarta n'est pas le Kwarna Kavaya, et réciproquement. Mais alors, bien sûr, il y a des lacunes dans notre information. On ne sait pas comment le premier Kwarna a été définitivement perdu, par exemple. On ne sait pas non plus comment les Kavi en ont fait leur propriété. Ce sont des éléments de l'histoire qui nous manquent. Alors, il faudrait tout de même relever, cela présente son intérêt, qu'il y a entre les trois épisodes qui composent l'ossature qui figure au tableau, un certain point commun, c'est que dans tous les cas, le Kwarna se dérobe. Le verbe, dans le premier épisode, lorsqu'il quitte Yima, on nous dit qu'il s'enfuit. Le verbe est apanam. Apanam, s'enfuir, sous la forme de l'oiseau. Hein. Alors, la deuxième fois, dans l'épisode 2a, lorsque le Kwarna que n'ont pu saisir ni le feu, ni Ajida Aka, curieux verbe, le Kwarna s'en va. Le verbe est, là, il faudra que nous y revenions, frapinwata, vers l'océan céleste. Ensuite, ici, il coule à l'écart, lorsque Frank Gracian essaye de le saisir. Appa plus touch. Touch signifie courir pour les hommes ou les animaux, mais aussi couler pour l'eau. Donc, à ce moment-là, le Kwarna est aquatique et il est assez normal que ce soit le verbe. C'est un mouvement de l'eau. Hein, il va se mettre à l'écart, mais cela, c'est un autre verbe. Alors, voilà donc c'est un point commun entre les trois épisodes. C'est pas, ici, puis ici, il va se dérober aussi à Frank Gracian dans l'épisode des Kavi avec le même verbe. Alors, on pourrait voir peut-être qu'il y a, je vais dire, un cycle du Kwarna. Parce que, regardons ce qui se passe, c'est bien. Dans le premier épisode, le Kwarna est aérien. Il s'enfuit sous la forme d'un oiseau. Enfin, il devient, semble-t-il, lorsque le feu et le serpent se le disputent, un élément terrestre qui se trouve à la surface de la Terre. En se dérobant, il gagne les eaux célestes, le réservoir céleste des eaux. À la suite de la tentative de Frank Hassian et à la création des déversoirs, il se trouve dans les eaux terrestres, le bassin du fleuve Hilmand, du fleuve Haitoumand. Et puis peut-être, à la suite de la tentative de Frank Hassian, dans le dernier épisode, peut-être regagne-t-il l'espace aérien. Car le Kwarna qui se dérobe, là, s'en va, nous dit le texte, vaillant, je vous donne cette expression telle quelle parce que je ne peux pas l'expliquer. Elle reste inexplicable, je crois qu'aucune tentative n'a vraiment été probante pour expliquer ce mot-là, le vitapa. Vitapa, je ne sais pas. Mais ceci, en tout cas, c'est le génitif pluriel du nom de l'oiseau. Donc, il s'enfuit vers le vitapa des oiseaux. Donc, peut-être y a-t-il un cycle où le Kwarna aérien redevient aérien après avoir épuisé toutes les autres possibilités. Un autre point commun, c'est que chacun... Chaque protagoniste de ces narrations doit vaincre un ennemi. Dans le premier cas, dans le cycle de Yima, ses ennemis sont traditionnels. Traitana tue, bien sûr, tue Ajidaka, c'est son adversaire. Plusieurs passages de l'Aveska définissent Traitana comme Yo Jana Tajin Dahakum, Traitana qui tua Ajidaka. Ce n'est pas très original. Cela ne nous informe pas beaucoup. Mais Kursaspa, c'est intéressant. Kursaspa, nous avons une véritable digression sur l'activité meurtrière, d'ailleurs, de Kursaspa dans le Yasht 19. Lui aussi a son ennemi traditionnel, il l'a ici, mais il en a d'autres. Et le dernier de ses adversaires qu'il tue est un adversaire, curieusement, qui n'est pas pubère encore. C'est un enfant. Un certain Snavitka. Snavitka. Et quoi qu'enfant, Snavitka se livre à une forfanterie. Il dit « Si Kursaspa ne me tue pas, déclare-t-il, eh bien, je ferai de la terre mon char, je ferai du ciel mon char, de la terre ma roue, je tirerai le bon esprit, spentamainu, des lumières infinies du paradis, et je tirerai le mauvais esprit des enfers sous la terre pour en faire mes deux bêtes de trait. » Donc voilà le. Vous voyez, il y a une confusion ici, hein, une confusion évidente entre Snavitka veut mettre le désordre dans le macrocosme, en manipulant le ciel et en manipulant la terre, mais aussi le bien et le mal par la manipulation des deux manus. Bon, confusion entre des choses inconciliables. Ben, la lutte d'Ajidahaka, de l'eau et du feu, d'Ajidahaka contre Atar, la lutte de l'eau et du feu, ce sont aussi deux éléments inconciliables, mais remarquez qu'ici, la confusion qui est accomplie dans la personnalité même d'Apamnapat, a une conséquence positive. Le Kwarna est mis à l'abri dans le réservoir céleste des eaux. Il sera distribué aux eaux terrestres de telle sorte qu'il profite exclusivement aux nations iraniennes. Alors, je fais remarquer que Frank Hassian, lui aussi, dans ses trois tentatives de plongeon, n'est-ce pas, dans la mer Vorokasha, Frank Hassian se livre lui aussi à une menace chaotique, créer le chaos en disant « Puisque c'est comme ça, puisque le Kwarna ne veut pas se donner à moi, je vais mélanger ce qui est sec et ce qui est liquide. Je mélangerai ce qui est sec et liquide. » Probablement, l'histoire ne le dit pas, n'en aura-t-il pas le temps, car l'un des cavis va le réduire à l'impuissance. Alors, voilà l'histoire complète. Nous pouvons maintenant peut-être vérifier les quatre points de Dumézil, si les quatre points de Dumézil s'appliquent au récit que je viens de faire. Bon, le point 1, il y a un élément igné dans l'eau que l'on cherche à conquérir, il nous faut le dissocier. Il y a un feu dans l'eau. Oui, Apam Napat est un feu dans l'eau. Oui, je vous ferai remarquer cependant qu'il n'y a pas de feu dans l'eau romaine. Dans l'épisode du débordement du lac Albin, il n'y a pas de trace de feu. Pas question de feu dans l'eau. Il n'y a, rappelle seulement la présence du feu dans l'eau, que le nom de son gardien, Neptune, si le nom de Neptune est comparable à celui d'Apam Napat. Mais rien ne nous dit que quelque chose brûle dans l'eau du lac Albin. C'est aussi, en Irlande, le puits de Nectan, c'est aussi un élément relativement discret, puisque la présence du feu dans l'eau se traduirait simplement par l'éclatement des yeux de celui qui regarde l'eau du puits. Mais on a cherché, vous savez, un interlocuteur de Dumézil, Jan Pouhvel, qui est un spécialiste aussi de mythologie indo-européenne de l'Université de Los Angeles, dans le même Journal of Indo-European Studies de 1973, Jan Pouhvel a tenté de retrouver les traces dans le mythe romain et dans le mythe irlandais de la présence d'un feu. Bon. Ce n'est pas extrêmement... visiblement, il est mal à l'aise avec ce problème-là et je crois que nous pouvons le rester. Alors, le deuxième point, on cherche à conquérir. Mais il n'y a pas d'idée de conquête dans le mythe non plus, dans le mythe romain. Et le mot conquête est extrêmement fort pour ce qui se passe dans le mythe indien. Dans le mythe indien, l'on cherche à conquérir, non pas l'élément igné qui se trouve dans l'eau, mais les eaux elles-mêmes. Mais les eaux elles-mêmes. Et on a une dame appelée Banks Findley, Elizon Banks Findley, dans la revue Numen de 1979, a très justement fait remarquer que ce qui se passe dans les deux hymnes du Rig Veda, où il est question du feu dans l'eau, c'est de la simplement de le fait que l'assistant manipulant du Hotar, n'est-ce pas, l'Advaryu, le prêtre qui fait les manipulations rituelles, doit aller à l'eau, à un point d'eau, à un fleuve, ou à un point d'eau, chercher l'eau qui va servir aux libations, très vite. Et pour cela, il doit le faire avec le consentement des eaux. Une conquête, c'est très faible. Hein. Il faut propitier les eaux, demander leur consentement. Et concomitamment, le consentement d'Apam Napat, qui se trouve dans les eaux. Les eaux doivent être consentantes. Le texte indien dit, emploie avec insistance pour cela le mot « ushati ». Ushati. Les eaux doivent être consentantes. Alors, l'élément igné a un gardien, nous dit dans son second point du Mésil. Non. Apam Napat, que ce soit en Inde ou en Iran, il est l'élément igné. Il n'est pas son gardien, il l'est. Il est le feu dans l'eau. Nectan et Neptune, peut-être, mais remarquez que ce sont les deux mythes où le feu est très discret, il n'est pas présent dans les eaux. Il y a, dans l'analyse que fait Dumézil, un dérapage, volontaire ou involontaire, entre la personne d'Apam Napat et le Kwarna. L'élément igné, brutalement, n'est plus Apam Napat dans le raisonnement de Dumézil, il est le Kwarna. Il est le Kwarna. Et Apam Napat devient une sorte de gardien du Kwarna. Il n'est plus lui-même le feu dans l'eau. Le feu dans l'eau, c'est le Kwarna, et Apam Napat devient le gardien du Kwarna. La confusion, cette espèce de déviation, n'est-ce pas le moment où il y a cette dérive dans l'analyse de Dumézil, se trouve à la page 74, où on peut, je vous lis la phrase, « Le védique Apamnapat se comporte comme un feu dans les eaux », écrit Dumézil. « Son frère avestique est liturgiquement en rapport à la fois avec le feu et les eaux, et ce qu'il cache au fond des eaux est le kwarna, signe brillant et par conséquent à quelques degrés igné. » C'est aussi un élément du raisonnement de Dumézil qui avait gêné Pourvel, qui dans son article donc de 73 également a essayé de dire les choses de manière extrêmement explicite, c'est-à-dire de faire de manière tout à fait visible et tout à fait explicite ce que Dumézil n'a pas fait, à savoir que, en quelque sorte, le feu dans l'eau s'était dédoublé. Il était à la fois Apamnapat et le kwarna. Il y avait une sorte de dédoublement et de double personnalité du feu dans l'eau. Donc, c'est ici que le, peut-être qu'il y a quelque chose de gênant dans le raisonnement de Dumézil. Alors, nous allons continuer, nous allons essayer de cerner la personnalité d'Apamnapat, si vous le voulez bien. Vous voulez peut-être... Alors, que faire ? Eh bien, nous allons lire sa fiche signalétique. Hein. La carte d'identité, en quelque sorte, d'Apamnapat, c'est la... Oh, c'est la formule de son yacht. Nous ne l'avons plus. Nous n'avons que sa formule de base. Ici, hein, ici, dans le yacht 19. Lorsque l'on nous dit qu'il s'est emparé du kwarna insaisissable. Alors, voilà. Nous allons regarder ensemble cette formule de base. Il est Börsantem Ahurem. Je me suis permis de répartir ces épithètes sur deux par deux, parce que ça donne une idée peut-être assez claire, mais c'est au mépris de l'éventuelle métrique. Ça n'a rien à voir avec la métrique. Bon, il est Hu, Börsant. Il est Ahura. J'ai traduit par maître. Vous savez que Ahura, c'est une chose un peu surprenante ici. C'est une chose un peu surprenante car il n'y a dans l'Avesta récent, je dis bien l'Avesta récent, je ne parle pas de l'Avesta ancien, dans l'Avesta récent, trois dieux seulement porte le titre d'Ahura. C'est Mazda, c'est Mitra et Apamnapat, ce qui confère en apparence, pour le moins, un statut exorbitant à ce dieu Apamnapat. Et c'est d'ailleurs ce qui a aveuglé Mary Boyce lorsqu'elle a voulu restituer, deux ans après Dumézil, hein, une triade indo-iranienne primitive où trois asuras pour l'Inde, trois Ahuras pour l'Iran, dominaient le panthéon. Donc, c'est un dieu haut, grand. Il est Kshatrim. Attention à Kshatrim, ne nous méprenons pas. C'est un mot important, mais il y a une tentation, ce serait tout à fait phonétiquement légitime de le dériver, comme l'a fait Bartholomé, du mot kshatra, le pouvoir, hein, et de voir dans ce terme l'équivalent du sanskrit kshatriya, donc le représentant de la seconde caste dans le système brahmanique. Ce n'est certainement pas cela. Avant Bartholomé, l'Américain Jackson avait défendu une hypothèse qui est elle aussi tout à fait possible phonétiquement, mais qui fait de ce terme une spécificité iranienne, ce qui n'est pas gênant en soi. On perd en quelque sorte le point de comparaison avec le système des castes brahmaniques, mais on y gagne autre chose, et quelque chose qui colle bien à la personnalité de ce dieu à la fois flamboyant et aquatique. C'est que ce soit un dérivé secondaire sur le mot kshatri, qui est un mot désignant les épouses, kshatri. C'est celui qui vit parmi les épouses. Il se trouve avec les épouses. Or, les eaux sont explicitement définies dans le texte de fondation sur le culte des eaux, dans l'Avesta, dans le Yasna Haptenkhaiti, comme les filles et les épouses d'Ahura Mazda. Ahura Ni, Ahura He, c'est-à-dire les femmes d'Ahura Mazda et les filles. Elles sont ses filles en même temps. avec ce système valorisant de l'inceste qui est caractéristique de la pensée mazdéenne. Donc il vit, c'est une référence à son caractère aquatique, bien sûr, référence à son caractère aquatique. Mais tout de suite, par opposition, il reçoit aussi la qualification de Kshaita. Or, Kshaita appartient aussi à Yima pour d'autres raisons. Mais en dehors de Yima, c'est l'épithète exclusive, privilégiée du soleil. Ici, il y a la référence au feu. Kshatrim Kshaitam exprime, je crois, tout à fait, évoque en tout cas, le paradoxe du feu et de l'eau, dans ces qualifications. Kshaita, malheureusement, n'a pas non plus d'équivalent, nous ne pouvons pas en douter, mais nous ne pouvons pas, il n'a pas non plus, ce n'est pas un terme qui a un équivalent en indien. Nous sommes vraiment dans le contexte linguistique iranien. Alors, nous trouvons Apamnapat, le nom du dieu, il est Urvataspam, aux chevaux rapides. Aux chevaux rapides. Par Urvataspa n'est attesté que comme épithète du soleil. Donc, Urvataspa se combine avec Kshaita, pas pour donner une image solaire d'Apamnapat. Bon, le feu, bien sûr. Le feu est ici incarné dans l'image de la formule de ce yajna par le soleil. Dans le monde védique, on exprimera la donnée plutôt par l'éclair de l'orage. Mais nous en avons déjà parlé. L'orage est sinon inconnu de l'Avesta, tout au moins fait l'objet du silence ou de la discrétion. Peut-être par tabou, peut-être pas. Peut-être que l'Avesta a été composée dans un milieu climatique où les orages ne sont évidemment pas aussi impressionnants que les orages de mousson, pas de l'Inde. C'est une autre chose. Mais alors que l'Inde exprime plutôt l'éclat d'Apamnapat par le mot vidyut, l'éclair, la référence du texte avestique, c'est le soleil. Alors, Urvataspa, oui, alors il est un taureau, Arshanum. Il est un taureau. Et là, puis un terme qui prospère par l'oblation, ou bien qui rend irrésistible l'invitation sacrificielle. Le mot Zavana est ambigu, on ne sait pas on ne peut pas identifier de quelle racine Zou il dérive. Est-ce faire l'invitation sacrificielle ou est-ce faire la libation? On ne peut pas identifier cela, donc j'ai donné l'alternative. Donc, ici, le taureau qui a mis les hommes sur la terre, qui a taillé les hommes, qui a donné leur forme aux hommes. Or, c'est étrange, parce qu'ici, on attribue aussi à Apamnapat une activité anthropogonique, anthropogonique qui, en principe, est l'apanage exclusif d'Ahura Mazda. Mais je pense que nous ne devons pas nous laisser bluffer par cette importance considérable attachée à Apamnapat, et nous allons voir tout de suite pourquoi. Nous allons voir tout de suite pourquoi, c'est-à-dire que tout ceci traduit des conceptions qui sont aussi repérables dans ce que les hymnes à Apamnapat du Rig Veda nous disent. Nous avons peut-être les équivalents. Nous allons vérifier cela terme par terme, si vous voulez bien. Berzantum Ahurum. Donc les références se font à l'hymne du Rig Veda 2.35. Les numéros qui précèdent le matériel renvoient aux strophes, aux chiffres. Donc le haut Ahura, le haut maître, Apamnapat agit, se manifeste Asuryasya Marna, par sa grandeur d'Asura. Sa grandeur d'Asura. Donc, la référence à la grandeur et au caractère assourique, dans le deuxième livre de Rig Veda, ne soyez pas surpris, le terme Asura ne désigne pas encore les démons. C'est toujours le titre positif des dieux. Donc, la situation est tout à fait normale. Il n'y a là rien d'étonnant. Asuryasya Marna, donc sa grandeur d'Asura. Kshatri, ou bien Upapo, qui le renvoie au caractère aquatique, Strophe 1, Apamnapate et Nadio. Il vit dans la rivière. Il vit dans la rivière. Non, pas, ça correspond aux épouses d'Avra Mazda. Orvataspen, Ashuhema, celui qui stimule ses coursiers. Épithète d'ailleurs exclusive d'Agni, le feu. D'Agni, le feu, qui est aussi attribué à Apamnapate, celui qui donne l'impulsion à ses coursiers, aux chevaux rapides. Alors, taureau, il est Vrsha, il est aussi taureau dans l'hymne, à la strophe 13. Et alors, il a aussi une activité, oh, même pas anthropogonique, beaucoup mieux, cosmogonique. Ben, il a, attention, il y a une petite erreur, c'est Vishvani, il faut un V comme quatrième lettre de Vishvani, Bhuvana, Jajana. Il a engendré tout ce qui existe. Il a engendré tout ce qui existe. Donc, vous voyez, chaque élément compose la fiche signalétique, n'est-ce pas, d'Apamnapate dans son yasht correspond à une notion que nous trouvons dans l'hymne du Rig Veda indien. Tout ça est là, n'est-ce pas? Mais on a l'impression qu'il y a comme une traduction en iranien. Et c'est parfois de simples variations de vocabulaire qui n'ont pas d'implication conceptuelle, n'est-ce pas? Par exemple, le Kshatri comme épouse d'Ahura Mazda au lieu des rivières, simplement. La référence au soleil plutôt qu'à l'éclair, cela, mon Dieu, c'est dans l'ordre naturel des choses aussi. Hein. Alors, la cosmogonie est une cosmogonie à la mazdéenne dans le Yasht 19. Il n'a pas engendré toutes les créatures, mais il a fait comme Ahura Mazda. Il a fondé le caractère terrestre de l'homme et lui a donné sa forme, n'est-ce pas ? La cosmogonie aussi est traduite en iranien, et l'activité cosmogonique est tout de même là. Alors, il y a évidemment quelque chose de très intéressant, parce que ça va nous donner peut-être, permettre de pousser l'analyse un peu plus loin. C'est le rapport dans les hymnes au Rig Veda d'Apamnapate avec les femmes. Il est celui qui les féconde. Il est celui qui les féconde. La strophe 13, il est défini comme un taureau, et l'activité de ce taureau, c'est de déposer dans les eaux un embryon. Il donne aux eaux un embryon. On peut juger qu'il apparaît comme une relation qui est celle de l'époux des eaux. Il est celui qui féconde les eaux. Mais il est aussi leur fils nouveau-né. Il est leur chichou, dit le texte, chichou, qui les tète, qui tète les eaux comme si elles étaient des vaches. Il est le veau qui tète les vaches. Les eaux apparaissent alors comme sa mère, comme la mère d'Apamnapate. On recrée presque ainsi toute la série systématique des incestes dont le mazdéisme, lui, aurait été capable. Hein. Mais aussi, on ne dit nulle part qu'il est le frère des eaux, non, mais on établit aussi, ça c'est dans la strophe 4, il faut quitter la strophe 13. La strophe 4 établit un rapport avec les eaux qui suppose que les eaux et Apamnapate font partie de la même classe d'âge. Et la strophe se réfère au jeu sexuel des jeunes gens célibataires. Hein, où l'on nous dit que les jeunes filles, Yuvatayo, les jeunes filles, ce sont les eaux, caressent le jeune homme, Yuvanum, Apamnapate. Donc, les eaux sont des jeunes filles, Apamnapate est le jeune homme. C'est un passage dont Geltner a très bien montré le caractère sexuel. Alors, mais cela, c'est autre chose. Si nous avons donc établi comme ça le triple rapport d'Apamnapate avec les femmes, leur mari, leur fils, quelqu'un qui est de la même classe d'âge, même s'il n'y a pas de rapport fraternel, sororal avec les eaux. Alors, ceci nous permet tout de même de voir de quoi il est question. N'est-ce pas ? Si je me réfère à la traduction que renoue, je Ici, je ne traduis pas moi-même, je vous lirai le texte, parce que traduction entre nous, il n'y a aucune raison de les refaire. Elles sont tellement remarquables que l'on s'en voudrait de ne pas les citer, même si parfois il faut peut-être les mettre à jour. N'est-ce pas ? Bien, lui, comme Dieu mâle, a engendré l'embryon dans les eaux. C'est lui aussi qui les tête comme nourrisson, et elle le lèche. De quoi s'agit-il ? Eh bien, on nous le dit dans les deux strophes qui précèdent. Ce n'est que le constate la situation dans la strophe 13. Dans la strophe 11, on reprend alors l'idée des jeunes femmes, mais dans une toute autre perspective. Voyez, on va voir ce qu'elles deviennent, ces jeunes filles, ici. C'est pas, les jeunes femmes allument le feu. Ça, c'est la métaphore, pas les 10 jeunes femmes, la métaphore des 10 jeunes femmes, qui est permanente dans le cycle du feu ou le cycle du soma. C'est la métaphore des doigts de l'officiant, hein, les 10 jeunes filles, les 10 doigts de l'officiant qui pressurent le soma ou qui allument le feu. Donc, l'image de sexuelle qu'elle était devient tout autre chose. L'image se change, se charge d'un sens rituel dans ce moment-ci. Et puis, voici la partie de la strophe 12, hein, comment les choses évoluent. Je frotte le dos entier de l'air sacral. Je m'apprête à mettre le feu avec des copeaux de bois. Je le dispose, ce feu, avec des aliments et je le loue tout autour, en tournant autour de lui, avec des strophes. C'est l'allumage du feu rituel, cette fois-ci. On passe doucement de ce feu caché dans les eaux à un feu qui sort des eaux et qu'on allume sur l'air sacrificiel. C'est le passage du feu théorique qui se trouve dans les eaux, hein, au feu sacrificiel. Et on le trouve, bien sûr, dans l'image du taureau. Lui, le taureau a déposé un embryon dans les eaux. Et ce petit embryon va grandir, n'est-ce pas ? Il va devenir un veau, et puis il va devenir à nouveau le taureau, n'est-ce pas ? C'est le feu rituel qui est en train de naître et d'envahir l'autel du feu. Or, si l'autre hymne qui n'est pas, c'est un hymne aux eaux, mais que l'on pourrait aussi définir comme un hymne à Pamnapat, hein, dans la théorie de Madame Banks-Fidley, eh bien, voici aussi comment se termine l'hymne des eaux. C'est l'hymne, je crois que je ne vous ai pas donné la référence, c'est l'hymne 10-30. Bien, ces deux dernières strophes sont celles-ci, strophe 14 et strophe 15. Ô officiant manuel, c'est la traduction d'Advariou par nous, n'est-ce pas ? Ô officiant manuel, ami, faites prendre place aux eaux, déposez-les sur la litière rituelle, vous qui avez affaire au soma, ces eaux qui agissent de concert avec Apamnapat. Puis la fin, elles sont venues ici, les eaux consentantes, sur cette litière rituelle. Elles ont pris place pour la cérémonie, elles qui aiment les dieux. Officiant manuel, pressez le soma pour Indra. Le sacrifice aux dieux est à présent devenu facile. Voilà l'hymne védique. Ici aussi, de quoi est-il question ? Eh bien, c'est de passer des eaux naturelles aux eaux rituelles. Les eaux ne sont plus les eaux de la rivière, celles qui coulent sans cesse, qui bougent, mais c'est l'eau des libations. Qui interviennent très tôt dans le sacrifice. Hein. L'eau des libations, je parle, c'est dans le rite indien, dans le rite brahmanique, l'eau doit être là dès avant le pressurage de soma, bien sûr, dès le début du sacrifice. C'est très exactement la même chose dans le yasna de l'Avesta, et nous le savons parfaitement bien, car l'introduction de l'eau des libations a lieu dans le deuxième chapitre du yasna. Hein. C'est là que les autras sont constituées, c'est-à-dire l'eau des libations. Donc le texte ici nous donne très, très certainement la clé, semble-t-il, de ce qui se passe dans les deux hymnes. Le feu caché dans les eaux qui prend sa place de feu rituel et les eaux de la nature qui se deviennent les eaux des libations, les eaux du rituel. Alors, nous le voyons, nous pouvons d'ailleurs vérifier cela. Est-ce que nous n'avons rien de tel dans l'Avesta ? Alors maintenant, je vais, si vous le voulez bien, je vais corriger, je vais plutôt combler une lacune qui m'avait un peu chagriné l'an dernier. J'aurais voulu peut-être terminer le cours en analysant ce qui se passe à la fin du yasna. Ben, nous allons le faire. Que reste-t-il dans le yasna après ce yasna 60 où nous l'avons laissé? Eh bien, il y a deux textes. Il y a deux textes qui vont terminer avant la mise en congé général. Hein. Le tout dernier chapitre, c'est évidemment la mise en congé. C'est l'itemissa est. Hein. Bon, le sacrifice a eu lieu, tout le monde rentre chez soi. C'est ce que veut dire le tout dernier chapitre du yasna. Mais avant cette mise en congé général, il y a deux textes. L'un relativement court, le yasna 62. Le yasna 62, qui est un texte. Qui est un texte consacré au feu. Texte consacré au feu. Et à partir du yasna 63, mais dès la dernière strophe du yasna 62, jusqu'au yasna 71, le texte appelé Abzor, c'est-à-dire le texte de libation aux eaux. Donc le feu et l'eau sont réunis à la fin du sacrifice. Sont réunis à la fin du sacrifice. Alors, je vous invite à regarder comment les choses se présentent en regardant les passages, comme toujours, les passages encerclants, comme je les appelle, n'est-ce pas ? Est-ce que nous pouvons peut-être donner voici donc le yasna 62-11, qui est le début de l'Abzor, il réapparaît tout à la fin, 76. Toutefois, je ne donne pas l'analyse immédiatement de cela. Je préfère commencer par ce qui se trouve dans le premier chapitre original de l'Abzor à proprement parler. Dans la Vesta aussi, comme vous allez le constater, c'est extrêmement discret. Mais aller chercher à la rivière l'eau des libations, donc faire passer les eaux de leur état naturel à leur état, de leur état naturel à leur état rituel, est une opération délicate qui demande à tout le moins que l'on prenne des précautions ou qu'on loue l'action que l'on va faire, qu'on l'aborde en tout cas avec un certain état d'esprit. Alors que viennent ici les fravachis, nous les connaissons bien, hein, de ceux qui ont apporté les eaux, hij, c'est le pronom, mais ça représente les eaux, de ceux qui ont apporté les eaux en les prenant à contre-courant. Pourquoi à contre-courant ? Je crois que mon collègue Cherveux a une idée très simple et probablement correcte, n'est-ce pas ? C'est une référence toute simple au mouvement que l'on fait pour puiser. Hein. Lorsque l'on puise un récipient quelconque, on prend l'eau à brousse-poil, en quelque sorte, hein. Bon, à contre-courant. Et tout simplement, le geste, c'est la puiser, c'est le puisage de l'eau, n'est-ce pas, qui est évoqué ici. Mais donc, il est évident que si l'on se donne la peine de faire tout à l'entrée des passages originaux de l'Abzor une remarque comme celle-là, n'est-ce pas, il y a quelque chose de la pratique de l'advariu qui doit propitier les eaux, les rendre consentantes. Hein, il faut certainement que les eaux consentent à jouer un rôle rituel. Et alors qu'elles sont contrariées dans leur mouvement. Une autre contrariété dans le mouvement, un peu plus tard, n'est-ce pas, c'est l'Yasna 65-9. Donc, j'ai fait un petit article il y a un an, c'est pas ce sujet, mais qui n'a pas de rapport avec la phrase. C'est un article sur un petit mot qui se trouve dans la suite du texte et qui n'a pour nous plus d'intérêt par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mais voici une étrange demande accordée aussi aux hauts. Restez en paix à votre place, tant que le hotar, le zautar, sacrifie. Restez en paix à votre place, tant que le zautar sacrifie. C'est très certainement une demande faite aux eaux des libations, qui naturellement ne coulent plus. Hein, ne coulent plus. J'ai mentionné le petit article que j'ai fait ici, parce que je crois que je n'ai pas correctement situé la perspective de cette demande à l'époque. J'avais été frappé en faisant cet article par le fait que dans le rituel brahmanique aussi, le rituel de l'Agnishtoma, L'un des derniers actes du sacrifice était un hommage rendu aux eaux stagnantes. Alors, j'avais mis en rapport cette demande aux eaux de rester calme, de rester immobile, et les eaux stagnantes des brahmanas. Mais peut-être aussi s'agit-il pour les eaux de ne plus couler, simplement, parce qu'elles sont dans le broc des sacrifiants. Alors, et ce ne peut certainement pas un hasard, le yasna 65-12 comporte une invocation combinée d'Atar, le feu sacrificiel, et d'Apam-Napat. Voilà, comme toujours, l'Avesta est un témoin extrêmement taciturne. Voilà, toute petite notation, peut-être à côté du foisonnement des textes védiques, voilà, une petite notation qui dénote ici aussi une mentalité sacrificielle extrêmement commune entre Indiens et Iraniens. Alors, nous saluons, ça, c'est l'invocation préliminaire qui sert aussi d'invocation finale, le Frahiti et le Paititi des eaux. Nous saluons, bien nous sacrifions, pour finir, à l'allée et venue des eaux. C'est une situation un peu étrange parce que, vu l'ambiguïté des préverbes, je ne peux pas vous dire lequel des deux mots, si c'est Frahiti ou si c'est Paititi qui signifie venir ou partir. C'est possible avec les deux. Les traducteurs, d'ailleurs, ne s'entendent pas là-dessus. Certains disent d'abord l'aller et le retour des eaux, ou bien le retour et la venue des eaux. Mais les deux choses sont là, mais je ne sais pas exactement porté par lequel des deux mots. Les deux choses sont là. Or, Mme Hinz, qui a repéré ces deux phrases, a pensé que il fallait mettre cette phrase en rapport avec le geste que aujourd'hui dans le rite aujourd'hui des Zoroastriens d'aujourd'hui fait le prêtre principal, le Zaoutar. En prononçant ces phrases, il verse l'eau qu'il a dans un pot de la main droite, il le verse dans un pot qu'il tient dans la main droite et puis vice-versa un certain nombre de fois. Il mime comme ça l'aller-retour des eaux, n'est-ce pas ? Mais est-ce que cette image n'est pas, c'est peut-être une représentation ancienne, mais est-ce que ce geste simplement ne traduit pas, le voyage des eaux vers le lieu du sacrifice des eaux ? Et puis, elles vont y retourner. Vont retourner à la nature, bien sûr, après le sacrifice. Alors, voyez, le yasna, notre yasna, il s'achève comme cela. Un texte pour les eaux, et un texte pour le feu et un texte pour les eaux. Alors, maintenant, je vais risquer le coup, je l'ai fait souvent lors des leçons précédentes. Je n'ai pas beaucoup de matériel, n'est-ce pas ? Mais si ces textes sont là, ces textes, c'est très certainement parce que à la fin du rite, au moment où le yasna a été assemblé, le feu était éteint. Le feu était éteint. Il était rendu à l'eau. Il redevenait Apam-Napat, l'embryon des eaux, le petit-fils des eaux, dont il fallait. On l'en sortait quand on rallumait le feu lors d'un autre sacrifice. C'est une idée qui me poursuit parce que nous aurions peut-être, avec si le yasna a été fait dans le contexte, un contexte au fond indien, n'est-ce pas, où l'on construit l'autel du feu, on allume le feu. Et puis on l'éteint et l'on disperse l'autel du feu à la fin du sacrifice. Nous avons un petit élément de datation historique. Ça signifie qu'il n'y avait bien sûr pas encore de temple. Mais comme vous le savez, les temples apparaissent très tardivement dans la tradition mazdéenne. Nous n'avons aucun temple mazdéen avant le début du IVe siècle. Le début du IVe siècle. Ce sont les plus vieux vestiges et ils sont de toute évidence, ils sont empruntés à la Grèce. Pas l'idée de temple est empruntée à la Grèce. Alors, cela contraste évidemment très fortement avec ce qu'il y a aujourd'hui, un temple du feu, un feu permanent qui n'est plus éteint, etc. À l'époque de l'assemblage du yasna, non, on éteignait le feu. Il retournait aux eaux. Alors, bon, c'est bien, vous savez, certains d'entre vous ont peut-être assisté l'an dernier aux conférences de M. Garrison sur les hôtels du feu achéménides. Sur les hôtels du feu achéménides, on en a des représentations dans l'Aglyptique. Les plus anciennes représentations de ces hôtels du feu, le feu est en plein air, c'est clair, il n'y a pas de temple. Hein. Mais il date de, je crois, de 510, 509 exactement. Ce sont les plus vieilles représentations d'hôtels du feu mazdéens que nous ayons. Il est extrêmement difficile, avec ce matériel, de voir si ces hôtels du feu qui sont représentés sur les sceaux, etc., sont ou non démontables. C'est impossible, n'est-ce pas ? Mais ils sont en plein air. Mais il y a, vous savez, j'ai parlé l'an dernier de sédentarisation du feu rituel. Il y a des degrés de sédentarisation. Il n'est pas dit que le feu rituel n'est pas mis à l'abri après le sacrifice, n'est-ce pas, à l'époque achéménide. C'est possible. On a peut-être déjà entamé ce petit processus vers le caractère permanent du feu et la permanence des aires sacrificielles. C'est possible, mais nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. J'attendrai, ce n'est pas non plus ça sort de ma compétence. Moi, j'aimerais que les spécialistes de l'art achéménide se penchent sur la question. C'est beaucoup plus intéressant que de débattre sans fin du fait de savoir si les achéménides étaient zoroastriens ou non, ce qui pour moi est une question qui n'a pas de sens. Mais savoir où on en était avec le feu rituel, ça nous donnerait un élément de datation extrêmement important un point de concordance entre l'histoire de l'Avesta et l'histoire tout court, ce qui nous fait bien sûr cruellement défaut. Alors je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances et j'espère que nous reverrons après les nouveaux noms. Merci.